Je viens maintenant à Anna Baidova, qui vient de discuter sa thèse, le rôle des peintres dans l'illustration des livres imprimés à Paris, 1530-1580. J'imagine donc qu'elle va nous proposer des illustrations ultérieures de cette présence d'Apollon dans la tradition de la Renaissance française. Donc je vous donne volontiers la parole.
Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette présentation. Je remercie également Jean-Luc Fournet de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et n'étant pas égyptologue, je ne saurais porter un regard critique sur la valeur ou le contenu de l'ouvrage d'Apollon, mais mon ambition ici est d'analyser ces illustrations et d'essayer de tracer leur place dans la culture visuelle du XVIe siècle. Le manuscrit grec des Hiéroglyphica d'Apollon fut retrouvé en 1419, comme vous le savez, dans l'île d'Andros, par le voyageur florentin Cristoforo Buondelmonti. Ce texte a longtemps circulé sous forme manuscrite jusqu'à ce qu'il soit finalement imprimé par Aldmanus à Venise en 1505. Au XVIe siècle, on peut dénombrer au total 19 éditions des Hiéroglyphica en grec, latin et français. 9 de ces publications ont paru en France, 8 à Paris et 1 à Lyon, 7 en Italie, dont 1 à Bologne et 3 à Venise et à Rome, et 3 éditions isolées ont été préparées à Bâle, Augsbourg et Valence. La thématique de ce livre consacrée à la signification des hiéroglyphes égyptiens semble nécessiter la présence d'illustrations. Néanmoins, la première tentative d'illustrer ce texte ne semble pas antérieure aux environs de 1510, lorsque le juriste et humaniste allemand Willibald Pirckheimer traduisit le premier livre des Hiéroglyphica en latin et demanda son ami peintre Albrecht Dürer d'accompagner ses traductions d'images. Les dessins préparatoires pour quelques compositions d'Apollon sont aujourd'hui conservés à la British Library à Londres et au Kupferstichkabinett à Berlin. Le manuscrit de présentation des Hiéroglyphica destiné à l'empereur Maximilien Ier, quant à lui, se trouve à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Il est copié sur papier, accompagné de 72 dessins à l'encre, rehaussés à l'aquarelle, qui sont probablement l'œuvre de l'atelier de Dürer. Chaque hiéroglyphe occupe une double page. L'illustration est placée sur la page de gauche, avec le texte explicatif en face. Ce manuscrit est alors conçu comme un véritable livre d'emblèmes, et Dürer lui-même l'utilisait comme tel. Ainsi, il copia la composition du début du manuscrit représentant Maximilien Ier entouré des images hiéroglyphiques d'Apollon dans la gigantesque gravure de l'Arc de Triomphe préparée en 1518. Tous ensemble, ces hiéroglyphes transmettaient un message à la gloire du monarque. Il faut cependant attendre 1543 pour que la première édition d'Apollon, dotée d'illustrations, apparaisse sous les presses d'un libraire et imprimeur parisien Jacques Kervert. Il s'agit d'une traduction en français qui a parfois été attribuée à Jean Martin, également auteur d'une autre traduction des Hiéroglyphica, plus élégante et claire, publiée par Kervert 10 ans plus tard. Jacques Kervert était le fils et l'héritier d'un riche imprimeur parisien d'origine allemande, Tilman Kervert. Il commença sa propre carrière en 1535 et les Hiéroglyphica constituent son premier livre illustré. Kervert développa par la suite un goût pour les publications luxueuses. La forte influence italienne dans tous les domaines de culture française, la volonté de donner à la France sa propre culture nationale et la mode des éditions richement décorées poussèrent Kervert au début des années 1540 à s'intéresser à la réédition des publications du grand imprimeur vénitien Aldmanus. Ainsi, les Hiéroglyphica virent le jour en 1543 et ils furent suivis 3 ans plus tard par la traduction d'une autre publication emblématique de la firme Aldine, Le songe de Puléphile de Francesco Colonna, également traduit en français par Jean Martin et accompagné d'illustrations inspirées par l'édition originale. Au total, Kervert imprima l'ouvrage d'Apollon 3 fois, en 1543 et 1553 en langue vernaculaire et en 1551 dans une édition bilingue grec et latin. Les 3 publications sont illustrées à l'aide des planches gravées mesurant 50 sur 50 mm. L'édition de 1543 contient 197 illustrations, y compris 7 répétitions. Celle de 1551, 195, dont 5 répétitions et 7 compositions totalement refaites. Et celle de 1553 compte 193 compositions gravées. Dans ces 3 éditions, le texte et l'image délimitée par un fin cadre noir sont placés sur une même page. Comme dans le manuscrit d'après Dürer, les personnages sont représentés dans le goût de l'époque et les images ne correspondent aucunement aux hiéroglyphes. Les illustrateurs suivent les descriptions données dans le texte et leurs images ne sont jamais schématiques ou sommaires. Dans cette concrétisation, ils vont même plus loin que Dürer. Si ce dernier se limitait à la représentation isolée des animaux, objets ou personnages, les dessinateurs de Kervère les inscrivent toujours dans un paysage très développé, souvent avec des fonds architecturaux antiquisants ou avec des maisons en colombage. Ainsi, l'idée même d'hiéroglyphe comme signe isolé leur semble complètement incompréhensible, ils n'en sont sans doute jamais vus. Même quand il s'agit des parties du corps humain ou des chiffres romains, les illustrateurs ne renoncent pas à représenter un paysage en fond. Ainsi, l'os de caille signifiant sûreté, fermeté ou persévérance, ou le nombre 1095 désignant le silence, se trouve suspendu en l'air dans un paysage très développé. De même, certaines planches sont utilisées deux fois à l'intérieur de la même édition, chose absolument impossible dans un glossaire des hiéroglyphes. Ces images perdent ainsi immédiatement leur précision et ne peuvent plus être destinées à la copie servile. Par exemple, pour représenter la lune et le soleil, on utilise une composition où ils sont placés sur un fond de ciel étoilé. La même image accompagne également l'hiéroglyphe des deux étoiles. L'examen des planches de Rapollon imprimées par Jacques Kervère montre comment deux illustrateurs y ont collaboré. Si les images du premier que vous voyez sur... dont quelques-unes vous voyez sur l'écran, sont assez maladroites et simplifiées. Le deuxième est un excellent dessinateur, très attentif aux détails. Il apparaît aussi que ce dernier avait en sa possession un lot d'estampes de Dürer, très diffusées et souvent possédées par les artistes de l'époque. Comme plusieurs de ses confrères, cet illustrateur les comptait parmi ses modèles et on le trouve dans ses planches, les motifs directement empruntés de Dürer. Ainsi, le chien assis à côté d'un manteau fleur d'Élysée est copié d'après celui que l'on trouve dans en bas à droite d'une gravure de Saint-Eustache faite en 1501. Pour représenter un père laissant son héritage aux enfants contre sa volonté, l'illustrateur utilise une image de singe directement inspirée de la Madone aux singes de 1498. Inversée par rapport à l'original, cette copie est très fidèle à son modèle. La position des pattes, la posture de la tête, tout atteste la proximité de ces deux compositions. En revanche, le singe de Rapollon n'a pas de queue. Cette gravure a également servi d'exemple pour le paysage de fond avec un lac et une haute et étroite maison à colombage de la composition représentant Cynocéphale. De la même façon, la tête de cheval symbolisant la femme accouchant avant son terme reprend celle du cheval monté par le mort dans Le Chevalier, la mort et le diable de 1513. L'illustrateur de Rapollon avait également en sa possession la série de l'Apocalypse gravée en 1498. Ainsi, le soleil et la lune, signifiant les mois, semblent être inspirés par ceux de la composition de l'ouverture du 5e et 6e sceau. Ayant senti l'influence de Dürer dans les planches de l'édition de Kervère, Claude-Françoise Brunon avait supposé que le plus ingénieux des deux illustrateurs était proche du cercle de cet artiste. La simple copie de ces gravures ne permet bien évidemment pas de tirer une telle conclusion. Ayant largement circulé en Europe de l'époque, elle inspirait de nombreux artistes qui n'étaient pas directement liés aux peintres allemands. On s'interroge donc naturellement sur l'identité des illustrateurs de Rapollon. Hélas, le texte du livre ne nous fournit aucune indication concernant les illustrations. Le dépouillement de l'étude 73 du minutier central des notaires de Paris contenant les nombreux actes de la famille Kervère, notamment pour les années 1539-1543, n'éclaire non plus les conditions de préparation de cette publication. Même si plusieurs compositions des hiéroglyphica s'inspirent des gravures de Dürer, cet ensemble est sûrement d'origine française. C'est du moins ce dont témoignent les fonds architecturaux assez caractéristiques. Des tentatives d'attribution ont été alors avancées. Ambroise Fermandido, auteur de monographies sur le peintre parisien Jean Cousin, proposait de lui donner l'ensemble des bois. Amateur et collectionneur de livres anciens, il était très sensible à la qualité des illustrations, mais faisait des regroupements stylistiques assez larges. La plupart des bois gravés donnés à Jean Cousin par Fermandido sont aujourd'hui à désattribuer ou donnés à d'autres artistes. Pour autant, Harry Zerner, dans l'art de la Renaissance en France, n'exclut pas l'intervention de Jean Cousin-Père dans la préparation de cette publication. On sait en effet que Jean Cousin-Père fréquenta une partie du cercle de Kervère. En 1549, il illustra le livret de l'entrée du roi Henri II à Paris, rédigé par Jean Martin, et en 1550, il travailla sur quelques planches du missel à l'usage de Cluny, publié par la mère de Jacques Kervère, Yolande Bonhomme. Cependant, les rares figures humaines et les paysages très chargés remplissant entièrement le cadre des illustrations des hiéroglyphica ne correspondent pas au style de Jean Cousin. Il est également impossible d'imaginer dans son vocabulaire de fonds architecturaux, toujours antiquisant et fantaisiste, les simples maisons en colombage. On peut poursuivre la recherche en enquêtant du côté des connaissances présumées de Jean Martin, même si l'attribution du texte de 1543 à ce traducteur reste incertaine. On sait que celui-ci a publié en 1547 une édition de Vitruve illustrée par Jean Goujon, mais le style de ses illustrations ne correspond pas à celui de Rapolon, car les figures humaines de Goujon sont beaucoup plus fines et allongées. Le style d'un autre peintre qui travailla en 1549 pour l'entrée de Henri II à Paris, Charles d'Origny, dont on ne connaît que le tableau et le dessin préparatoire de la descente de la croix, est également très loin des illustrations de la publication de Kerver. Il nous semble donc peu probable que l'un de ces artistes ait pu participer à la préparation de cette édition. En analysant les compositions des hiéroglyphica, nous nous rendons compte que certains éléments que l'on y trouve feront par la suite partie du vocabulaire artistique de peintre parisien Baptiste Pellerin, et cette hypothèse continue justement la conversation qu'on a eue ce matin avec M. Fournet. Contrairement à Jean Cousin-Père, celui-ci n'hésite pas à représenter l'architecture rustique, maison à colombage, moulin à eau, etc. Le type même des paysages constitués d'une haute montagne rectangulaire au pied de laquelle se regroupent les éléments d'architecture est assez récurrent chez lui. Chez Rapolon, on remarque également une répétitivité des motifs très caractéristiques de la méthode artistique de Pellerin. On trouve ainsi des éléments récurrents, les arbres à troncs noueux avec de l'herbe ou de jeunes pousses près de racines, ou encore les arbres têtards au sommet coupé d'où partent les régées, et des clôtures de bois délabrés. Certaines figures humaines de Rapolon sont également proches de l'art de Pellerin. Ainsi, la figure de l'homme à la torche faisant face au lion, par ses proportions et une mèche de cheveux en forme d'étoile au-dessus du front, rappelle les images masculines typiques de cet artiste. D'autres représentations des hiéroglyphica se retrouvent à l'identique dans la production de Pellerin. Par exemple, la forme des ruches se répète chez Rapolon et dans un livre de fêtes imprimé par Frédéric Morel à Paris en 1573 et illustré par Pellerin. Ces exemples peuvent encore être multipliés. Pourtant, 1543 est une date assez précoce dans la carrière de Pellerin. On sait qu'il s'est marié en 1542 et avait alors l'âge pour pouvoir travailler, mais ses premiers travaux documentés comme peintre datent de 1549. Toutefois, en 1548, il était désigné comme enlumineur, ce qui laisse entendre qu'il travailla à ses débuts dans le monde du livre. Ce n'est pourtant qu'au début des années 1550 que l'on peut observer la cristallisation du style artistique de Pellerin dans l'illustration, notamment sous l'influence de Jean Cousin-Père. On sait également que durant sa carrière, Pellerin travailla souvent sur le décor des éditions de Jacques Kerver. Les planches gravées des hiéroglyphica connurent une relative fortune. Après les éditions de 1543, 1551 et 1553, 8 de ces planches réapparurent dans un livre de chasse, Le Roi Modus, qui vit le jour en 1560, dans une édition partagée entre Guillaume Lenoir, Vincent Certenas et Gilles Corozet. La signification initiale des compositions y a été complètement omise et certains éléments qui y figurent deviennent ainsi inexplicables. Par exemple, pour illustrer la maladie des yeux des chiens, on réutilise les planches représentant un chien à côté d'un manteau fleur-d'Élysée. Chez Rapolon, cette composition correspondait au hiéroglyphe du gouverneur, un chien à côté d'un manteau royal. Nous pouvons imaginer que les bois des hiéroglyphica furent loués ou prêtés par Kerver à ses confrères avec lesquels il avait déjà collaboré en 1550 pour la publication des 10 ordonnances. En 1574, Galio II Dupré et Jean Ruel décidèrent de reprendre l'édition de Kerver de l'ouvrage de Rapolon sous le titre « De Sacris Egyptorum Notis », en utilisant le lot complet des bois de Kerver. Si Ruel et Dupré n'ont jamais à notre connaissance travaillé avec Lenoir, Certenas et Corozet, tous deux connaissaient bien Jacques Kerver et avaient déjà collaboré avec lui à plusieurs reprises. On ignore également si Galio Dupré et Jean Ruel achetèrent ces bois ou s'ils se contentèrent de les emprunter. En revanche, le bois qui figure sur la page de titre de cette édition appartenait à Galio Dupré, comme en attestent ses initiales au pied. Vous le voyez sous le bateau. Et cette page de titre apparaît déjà en 1572 dans la publication de l'histoire de Primaléon de Grèce. Donc ce n'est pas une page de titre qui est faite spécifiquement pour cette édition. Notons également que l'on trouve des copies assez maladroites dans 3 rééditions de Rapolon faites à Rome par Luigi Zanetti en 1597, 1599 et 1600. Les compositions carrées se sont transformées en images rectangulaires, inversées par rapport à l'original. L'ordre de présentation des hiéroglyphes ne laisse aucun doute quant au fait que l'imprimeur italien a pris pour l'exemple l'édition de 1574. Indépendamment des cas de réutilisation ou de copie des planches, l'influence des illustrations de l'édition de Carver se ressent dans de nombreuses publications postérieures. Plusieurs livres d'emblèmes étaient influencés par ces compositions ou ont directement emprunté certains symboles en leur attribuant une autre signification. Ainsi, l'édition lyonnaise de l'Emblématum Libellus d'André Alcia, imprimée en 1548 par Guillaume Rouillet, s'inspire pour le symbole de la sagesse, œil dans le creux de la main, de la composition illustrant le hiéroglyphe de l'homme qui édifie et bâtit. On retrouve également dans cette composition le même arc antiquisant dans le paysage du fond. La figure de la chèvre signifiant la stupidité est dans cette publication copiée du hiéroglyphe représentant « C'est lui qui entend bien ». Orapollon a également influencé les hiéroglyphica des Pierio Valeriano imprimés à Bâle en 1556. Ainsi, le figure de lion représentant la colère inaccoutumée est inspiré du hiéroglyphe d'un homme ayant une fièvre et qui se guérit lui-même. Cette même composition apparaît dans la publication des emblémata d'Adrianus Junius, imprimé en verre en 1565 par Christophe Plantin et illustré par l'enlumineur parisien Geoffroy Ballant et le peintre en versois Peter Huss. L'emblème Vendeux, signifiant un flatteur, représente toujours un lion attaquant un singe, mais ses proportions sont plus lourdes et ses mouvements plus maladroits. Par ailleurs, l'emblème numéro 2 de la haine délirante, prenant la forme d'un éléphant poursuivi par un cochon, est quant à elle en grande partie copiée du hiéroglyphe signifiant le roi fuyant les menteurs. La circulation des gravures permettait d'utiliser les compositions les plus réussies pour des emblèmes déjà existants ou de les inclure dans de nouveaux livres d'emblèmes. Mais les hiéroglyphica de Carver ont également exercé une influence sur les livres de voyage, et en particulier ceux d'André Thévée. Éminent explorateur, il avait effectué un voyage de 3 ans au Levant entre 1549 et 1552. On sait qu'il supervisait le travail de ses illustrateurs et semble avoir lui-même fourni des croquis, des descriptions et des modèles à copier. Ainsi, dans sa cosmographie de Levant, imprimée à Lyon par Jean de Tournes et Guillaume Gazot en 1554, on trouve une image d'un obélisque égyptien couvert d'hiéroglyphes. Selon Thévée, cet obélisque fait de pierres rouges se trouvait à Caire et à l'emplacement de la grande salle d'Alexandre le Grand et était inscrit de plusieurs lettres sacerdotales et hiéroglyphiques. Les symboles qui y sont inscrits n'ont rien de schématique, ce sont des images dessinées avec beaucoup d'attention aux détails. Nous pouvons facilement y reconnaître certains des hiéroglyphes d'Orapollon, l'œil signifiant le dieu, le serpent symbole du roi victorieux, la main pour l'homme qui édifie, le crâne de bœuf pour le labeur et la chevêche signifiant la mort. Dans les hiéroglyphiques, on ne trouve pas d'images isolées de vases, ni de couteaux ou d'armures, mais il intègre des compositions plus complexes. Quoi qu'il en soit, l'illustrateur ne semble pas vouloir transmettre un véritable message codé, mais choisit quand même les hiéroglyphes glorifiant le roi bâtisseur. On trouve ce même obélisque dans la publication de la cosmographie universelle de TV, imprimée en 1575. L'auteur de cette illustration est Baptiste Perrin. Il a sans doute vu l'édition lyonnaise de la cosmographie de Levant quand les deux obélisques sont relativement proches dans des proportions et la présentation. Cette fois-ci, sa description dans le texte est plus détaillée. L'auteur accorde beaucoup d'attention à l'énumération des hiéroglyphes couvrant la surface de la colonne, parmi lesquels on trouve, je cite, plusieurs figures de bêtes, oiseaux, mains d'hommes, vases à l'antique, d'arcs et carquois, corselets, couteaux, astres du ciel, yeux et autres choses semblables qui jadis étaient les lettres sacerdotales que nous nommons hiéroglyphiques. Cette longue énumération des hiéroglyphes et l'attention particulière qui leur a été portée a forcé Pellerin à ajouter des images sur le tronc de la colonne. À côté des images que l'on trouve déjà sur l'obélisque de la cosmographie de Levant, on remarque encore une flèche signifiant chez Orapollon en trouble, une lune désignant les mois, un crocodile pour l'homme ravisseur et un aigle ayant une multiple signification allant de la bassesse à la victoire. Le deuxième obélisque tombé au pied du premier est également couvert de hiéroglyphes non cités dans le texte et Pellerin semble avoir pris plus de liberté dans leur interprétation. Mais par exemple, la tête de lion et l'image de l'aigle trouvent également leur source dans Orapollon. Dans la description du voyage du théologien et diplomate allemand Salomon Schweiger à Constantinople et Jérusalem, publiée en 1608 à Nuremberg, on trouve également une image de l'obélisque de Théodosius à Constantinople couvert de hiéroglyphes. Cette image montre aussi une certaine connaissance du texte d'Orapollon. On y trouve des chiffres romains. Il paraît d'ailleurs qu'au lieu du chiffre 1080 qui a pris trop de place sur le tronc d'obélisque, il aurait dû y avoir un chiffre 1095 signifiant le silence. En lion, aux trois cruches désignant le Nil croissant, une lune renversée, deux étoiles, un poisson, un serpent, etc. Tous ces symboles se retrouvent chez Horapollon. Ainsi, nous voyons que les hiéroglyphicas d'Horapollon étaient bien connus par des contemporains et ont beaucoup influencé leur perception des hiéroglyphes. La décision de Jacques Kerver de transformer cet ouvrage sur l'écriture égyptienne en un véritable livre d'emblèmes a permis aux artistes d'obtenir un recueil d'exemples et d'iconographies toutes prêtes à l'utilisation. Ces images eurent alors pour les lecteurs de l'époque une double valeur, symbolique et documentaire. L'utilisation des mêmes bois ou des mêmes compositions dans toutes les éditions illustrées d'Horapollon du XVIe siècle contribua à la cristallisation de l'iconographie de ces hiéroglyphes. Je vous remercie pour votre attention.
Nous pouvons dire désormais que Horapollon est un triomphe au cœur de cette Renaissance, de Dürer jusqu'à Thevet. Il a désormais envahi le Nouveau Monde et la circulation des gravures que vous avez montrées est vraiment extraordinaire. Donc, un grand merci pour cette défense, illustration de la vertu d'Horapollon. Et nous en parlerons en effet dans le débat qui va suivre.